bonjour à toutes et à tous. Voilà, c'est encore un plaisir pour moi d'être ici avec vous, dans la présence du Seigneur Jésus. Et sans attendre, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de selon Matthieu, au chapitre 3. Évangile selon Matthieu, au chapitre 3, nous allons lire 3 versets. Matthieu 3, verset 13. Jésus vint de la Galilée jusqu'au jardin vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Et c'est là la toute première parole de Jésus dans le Nouveau Testament. « Laisse faire maintenant. » Incroyable. Entre le dernier livre de l'Ancien Testament et le Nouveau, il y a eu 400 ans de silence. Durant tout ce temps, le peuple d'Israël a vécu toutes sortes de traumatismes importants derrière la naissance de Jésus, durant toute sa vie sur la terre, et quelques décennies même plus tard, Israël a vécu sous la domination romaine, avec son cortège de vexations, d'exactions, d'injustices de tout genre. Le peuple a essayé à plusieurs reprises de briser ce joug étranger, mais ça s'est toujours mal terminé. La situation n'a fait que s'empirer à chaque fois. Et ils n'arrivaient pas à s'en sortir par leurs propres moyens. Et là, le chemin qui a été préparé par Jean-Baptiste, Jésus brise des siècles de silence par cette parole d'une puissance inouïe. C'est comme si, au-delà du fait qu'il s'adresse personnellement à Jean-Baptiste, il disait aussi à toute la foule, cela fait des années et des années que vous essayez de vous en sortir par vous-même. Mais au fond de compte, vous ne faites que rajouter de la souffrance à votre souffrance. Désormais, il est temps de me lâcher prise et de me laisser agir, car moi seul, je sais ce qui est convenable de faire. À un moment donné de votre vie, dans notre vie, nous devons réaliser qu'il y a des choses qui n'appartiennent qu'à Dieu. C'est ce que Jésus dit un jour à Pierre. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Jésus parlait de la manière dont Pierre allait mourir et il a aussi fait mention de sa vieillesse. Une des caractéristiques d'un âge bien avancé, c'est une dépendance toujours plus importante des autres. C'est parfois humiliant. Et notre tendance naturelle, elle est de vouloir gérer les choses par nous-mêmes. Voilà, on est comme ça. Chrétien ou pas, nous appuyons sur nos propres ressources. Peut-être notre expérience si riche, notre savoir-faire, notre expertise, nos propres moyens. Tout simplement parce que nous avons été formatés pour devenir autonomes, indépendants, depuis le début. Quand l'enfant commence à marcher tout seul, tout le monde est content. Enfin, on n'aura plus besoin de le prendre dans les bras. Heureusement d'ailleurs. Et les parents se réjouissent. Mais ça fait partie de notre éducation, de notre formation, des attentes des parents par rapport à leurs enfants, des attentes de la société envers tout bon citoyen. Savoir être autonome et indépendant. Mais la vie chrétienne, la marche dans l'esprit, est un chemin tout autre. Nous grandissons, nous progressons spirituellement lorsqu'on est dépendant du Seigneur. Lorsque nous acceptons d'être entièrement dépendant de lui. Et ça, ça dérange notre ego. Parce que je ne contrôle plus rien. Ce ne sont plus mes plans, ce ne sont plus mes projets, ce n'est plus mon œuvre, ce n'est plus ma vie, ce n'est plus ma carrière. Voilà, la liste est longue. Et pourtant, nous avons quand même ces promesses merveilleuses dans les psaumes, dans les proverbes, qui disent « Recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. » Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Nous devons simplement accepter de nous laisser conduire par l'Esprit du Seigneur. Et aujourd'hui, je t'encourage à laisser Dieu agir, car lui seul sait ce qu'il convient de faire. Après s'être opposé, Jean a décidé de ne plus résister au Seigneur. On s'arrête un instant juste. Jésus dira plus tard que Jean était le plus grand des prophètes. Et cet homme résistait à Jésus. Donc on peut très bien avoir une belle vie chrétienne derrière nous. On peut très bien avoir fait des expériences extraordinaires avec Jésus. On peut très bien même en connaître une tonne et puis résister au Seigneur. Et il est important d'écouter la voix du Saint-Esprit quand il nous parle. Et si nous agissions comme Jean, ne plus résister au Seigneur. J'étais étonné hier. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Et j'entends quand j'ai entendu le Seigneur me dire, dis-le de ne plus résister à ma voix. De me laisser faire. Peut-être que cela fait des jours et des jours, des mois, peut-être des années, que tu luttes avec un problème. Et aujourd'hui, Jésus te dit, laisse-moi faire. Ne t'oppose pas à lui. Ne résiste pas. Ne résiste plus, mais accepte son aide comme un bienfait. Alors, de toute évidence, lui seul sait ce qui est convenable de faire. J'aimerais que nous écoutions une autre parole prononcée par les ennemis de Jésus. Une belle parole de foi que nous ferions bien de faire nôtre aussi. Vous savez que les ennemis de Jésus ont eu parfois des paroles juste extraordinaires. Quand ils ont dit, par exemple, « Nous, il a parlé comme cet homme. » Waouh ! Mais dans Jean chapitre 11, nous allons ensemble ce passage. Jean chapitre 11, verset 45. Donc Jésus vient de ressusciter Lazare. Et au verset 45, il nous est dit, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie pour la consoler, pour lui faire part de leur condoléance, et qui virent ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens rassemblèrent le Sanhédrin et dirent, « Qu'allons-nous faire ? En effet, cet homme fait beaucoup de signes miraculeux. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre, cette année-là, leur dit, « Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas. Qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. » Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'est pas pour la nation seulement, mais aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Donc Jésus vient de ressusciter Lazare, et comme pour tous les miracles accomplis par Jésus, il l'a fait dans une pleine dépendance du Père. Aurait pu agir de son propre chef. Mais il a choisi le chemin de la dépendance. Le chemin de la soumission à la volonté du Père. Volonté qui lui était révélée par l'Esprit qui le conduisait. Donc Jésus a choisi ce chemin pour que toi et moi, nous le suivions aussi. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. C'est pas beau tout ça? peut-être ce qui me manque le plus chez la majorité de ceux qui se disent pourtant chrétiens. Laissez faire Jésus. Ça ne signifie pas que je n'en fais plus, hein. Mais c'est que j'accepte de laisser conduire les opérations, de le faire et de ne dire que ce que lui désire. De dire ce qu'il veut que je dise, de faire ce qu'il veut que je fasse, d'aller où il veut que j'aille, quand il veut, quand il veut. Ça signifie que je ne tiens plus les rênes et que je marche dans l'esprit et par l'esprit. La racine de bien des problèmes dans la vie du chrétien et des églises, c'est bien souvent lorsque nous cherchons à faire nous-mêmes ce que Dieu, lui, veut faire. Et que nous attendons à ce que Dieu fasse ce que lui nous demande à nous de faire. On a inversé les rôles. Ça me rappelle la phrase d'un ancien philosophe berbère. Quand j'ai lu cette phrase, je la note, je la sortirai un jour. Ibn Khaldoun. Il disait, les berbères n'aiment pas trop les arabes, hein, ça c'est pas un secret. Et il disait, les arabes se sont mis d'accord de ne jamais être d'accord. Et à un moment donné dans notre vie, si nous voulons vraiment avancer, il nous faut accepter une fois pour toutes de laisser le Seigneur diriger notre vie. On reprend tellement vite le gouvernail, on reprend tellement facilement les rênes, on a parfois l'impression de tellement mieux savoir que lui comment il faut faire. Puis des fois ça arrive même dans nos prières. Seigneur, fais ceci, fais comme ça, fais ceci, fais cela. Comme si on avait besoin de nos conseils. Dire Jésus, d'accord, je suis d'accord avec toi, vas-y, fais ce que tu veux avec moi, fais ce que tu veux dans ma vie, au travers de ma vie. J'aimerais être plus loin encore avec vous ce matin. Il y a des 4 semaines que nous avons fêté la plus importante des fêtes chrétiennes, la fête de Pâques, qui est aussi la plus importante des fêtes juives. Jésus a donné sa vie pour chacun de nous, comme ça l'a dit tout à l'heure. Il est crucifié pour nos péchés, par son sang versé à la croix. Ça nous pardonne nos péchés. Quel bonheur! Et comme Jean, son disciple, témoigne, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle, il est juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de tout mal. Non seulement son sang nous assure le pardon, comme sacrifice parfait, il enlève aussi notre culpabilité, notre condamnation, il nous purifie. Et pour que nous comprenions bien, que nous ne restions pas dans la spirale qui devient vite insupportable de « je pêche, je demande pardon, je commets le même péché, je redemande pardon, je retombe dans le même péché, je demande pardon, je retombe dedans, c'est horrible. » C'est pour ça que j'ai rencontré des chers chrétiens qui me disent « Pasteur, c'est plus fort que moi. » Dans la délivrance, pas forcément qu'on chasse un démon, mais que tu sors de la spirale. Jean ajoute donc ces paroles, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Donc le sang de Jésus, non seulement est efficace pour nous pardonner, mais aussi pour nous délivrer de tout péché, de toute mauvaise habitude, de toutes ces ornières que nous avons pu connaître dans notre vie. Jésus est mis au tombeau, le 3e jour il est ressuscité, il a vaincu la mort, le séjour des morts, on n'a pas pu le retenir, Jésus a vaincu non seulement le péché, mais aussi la mort, il a vaincu toute la puissance des ténèbres, Satan, ses démons, l'enfer. Et par la résurrection de Jésus, nous sommes aussi justifiés. Je vous fais un bon coup de catéchisme, là. Qu'est-ce que ça signifie être justifié? C'est plus que simplement une notion juridique. Plus coupable, non, c'est plus que ça. Il s'agit de retrouver une relation juste avec Dieu. c'est aussi un statut, une réalité, une position retrouvée devant Dieu. La justice de Jésus prend place dans notre vie. Laisse faire maintenant ce qui est juste. Et si nous voulons vivre la justice de Jésus dans notre vie, si nous voulons avoir cette relation juste avec le Père, nous devons laisser le Seigneur agir comme il le désire dans notre vie et au travers de notre vie. Que disent les Écritures de ce qui s'est passé entre la résurrection et l'ascension de Jésus? Maintenant, on attend notre prochain jour de congé. On va aller aussi? Ah, c'est bien. Mais quand on en Suisse, c'est pas le cas, hein. Jésus vient de ressusciter. Il y a des disciples qui vont à Emmaüs. J'ai découvert cette semaine pourquoi Emmaüs. Emmaüs était un lieu de ralliement où beaucoup de juifs qui attendaient le Messie qui devait les délivrer des Romains se réunissaient. Hop, retour à Emmaüs. On va voir si on va attendre le Messie qui va nous délivrer des Romains. Parce que visiblement, Jésus a raté le coche. Jésus les rencontre, il leur demande de quoi il parle. Il dit, mais tu sais pas ce qui s'est passé à Jérusalem? Et puis, il commence à leur dire, au travers des Écritures, tout ce qui le concerne. Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire. Tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Puis, en commençant par les Écrits de Moïse, et continuant par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Puis donc, ils veulent le presse de rester avec lui, avec eux. Et au moment du repas, Jésus prend le pain, prononce la prière de bénédiction, le rompt et le leur donne. À ce moment-là, leurs yeux s'ouvrent, ils reconnaissent Jésus. Il disparaît. Minuit deux, ils retournent à Jérusalem, tant pis pour la nuit à l'hôtel. Et là, ils retrouvent les disciples. Et ils disent, Jésus nous est apparu. Jésus apparaît encore à ses disciples, dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez un esprit, un ischénios, comme vous le voyez. J'en ai. » Il leur montra ses mains et ses pieds. Et, dans leur joie, ils ne croient pas encore. La joie, c'est une chose, mais la joie ne remplace pas la foi. On peut être joyeux, il y a des natures joyeuses, des gens qui sont très positifs de nature, mais ça ne remplace pas la foi. La foi est différente. Et ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit, avez-vous aussi quelque chose à manger? Et ils mangent avec eux du poisson grillé, un rayon de miel. Et il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il était écrit. Et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et il les conduit ensuite vers Béthanie, il lève les mains, il les bénit, pendant qu'il les bénit, il les quitte, il les envoie au ciel. Et après, retourne à Jérusalem, rempli d'une grande joie. Il était constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Une attente joyeuse. Dans les Actes, Luc aussi raconte ce qui s'est passé. Il dit que Jésus est apparu à ses disciples, leur a donné de nombreuses preuves de sa résurrection. Il leur a parlé du royaume de Dieu. Et puis, il leur a dit, attendez, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem. Puis il a été enlevé au ciel. Il leur a donné des ordres, des directives par le Saint-Esprit. On trouve ce même témoignage dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. chose magnifique. Marc 16 aussi en parle. Qu'est-ce qui s'est passé entre la résurrection et l'ascension? Des rencontres personnelles avec Jésus. Dans la vie normale des disciples, là où ils étaient, ils mangeaient, ils marchaient. Voilà, c'était une période troublée, certes, mais c'était dans leur vie normale. Dans la révélation de Jésus. Jésus qui bannit la peur. Jésus qui leur explique les Écritures, qui les enseigne. Jésus qui leur donne des preuves qu'il est bien ressuscité. Il leur donne des ordres. Il leur fait une promesse, celle d'être avec eux tous les jours, ou tout le long du jour. Et il les bénit. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Jésus monte au ciel, des anges apparaissent aux disciples, puis il dit que les disciples se mettent en mouvement, selon l'ordre de Jésus, et après avoir reçu le Saint-Esprit, ils annoncent la bonne nouvelle du Seigneur partout. Et ce témoignage, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes, les miracles qui l'accompagnaient. Comment est-ce possible? Jésus est monté au ciel, voilà, ça je comprends. Et là, il a dit qu'il travaillait avec eux, il faisait des miracles avec eux. Quand il a fait la promesse à ses disciples d'être avec eux tous les jours jusqu'à la fin, il leur a aussi fait la promesse qu'ils recevraient le Saint-Esprit. Il a appelé un autre comme moi. Ce que Jésus a fait entre la Pâque et l'Ascension. Il est important que nous comprenions cela. Ce n'est pas juste un fait historique, voilà ce qui s'est passé. Mais ce que Jésus a fait entre la Pâque et l'Ascension, le Saint-Esprit veut aussi le faire dans notre vie aujourd'hui. Une rencontre personnelle dans ta vie normale. Pas seulement lorsque tu es à l'église ou avec les frères et sœurs ou quand tu te réjouis, mais dans ta vie de tous les jours, de chaque instant, une rencontre personnelle avec Jésus. Une révélation de Jésus. Ils étaient bien les disciples qui marchaient vers Emmaüs. Quand Jésus était avec eux, leur cœur était réchauffé. Jésus voulait beaucoup plus pour eux. Il voulait se révéler à leur cœur de manière personnelle, directe. Le Saint-Esprit veut bannir la peur et les craintes de ton cœur. Il y a toutes sortes de craintes possibles et imaginables. La vie serait trop longue. Mais chacun d'entre nous a des peurs précises. Le Saint-Esprit veut t'en libérer complètement. Il veut aussi t'enseigner les Écritures, t'ouvrir l'esprit pour que tu comprennes la parole de Dieu. C'est tellement bon lorsque tu es en train de lire et d'un seul coup, waouh, j'avais jamais vu ça. Ça fait 40 ans que je suis chrétien. Yes! Tu as donné des preuves que Jésus est ressuscité. Et plus encore, on va te donner des ordres, des directives, un sens à ta vie. Dieu a une destinée pour toi. Mais ce n'est pas seulement un point lointain qu'il te montre, et voilà, c'est ça que j'aimerais que tu fasses. Mais c'est le jour qui va te conduire, si tu es prêt à te laisser conduire. C'est intéressant de voir un aveugle se laisser conduire par quelqu'un qui est complètement dépendant. Qui est aveugle comme mon serviteur? Qui est sourd comme mon serviteur, dit Dieu. C'est une dépendance complète. Lorsqu'on sert le Seigneur, c'est un apprentissage de chaque jour, dépendre de lui. Et puis, le Saint-Esprit est avec toi tous les jours. Et il est éternellement. Et puis une autre chose encore que Jésus a faite, c'est qu'il a béni ses disciples et le Saint-Esprit désire te bénir. Alors, pour que cela puisse se produire dans notre vie, Il y a une étape essentielle, une bonne marche de notre part. Jésus, en rencontrant ses disciples pendant ces 40 jours, et ces gens qui nous le racontent dans son récit, Jésus leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et il a soufflé sur eux. Et nous devons donc recevoir le Saint-Esprit. C'est la question que Paul pose à des disciples qu'il rencontre à Éphèse. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Alors il répond, nous ne savons même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Nous n'avons même pas entendu parler. Aujourd'hui, certains répondraient, ah, mais j'ai toujours pensé qu'on recevait le Saint-Esprit quand on recevait Jésus dans sa vie, qu'on croyait en lui. Et pourtant, Paul va poser ses mains sur eux, et à ce moment-là, le Saint-Esprit est venu sur eux, ils ont commencé à parler en langue, à prophétiser. Est-ce que le Saint-Esprit n'était pas déjà venu le jour de la Pentecôte? Ils devaient en faire l'expérience personnelle à leur tour. Tout comme Jésus n'est mort qu'une seule fois sur la croix, et qu'il est ressuscité le troisième jour, et que je dois en vivre les implications dans ma vie personnelle, il doit y avoir une application personnelle, sinon cela reste un fait historique. Au mieux, sinon je profiterai d'un jour de congé ce jour-là. Hein. Mais il nous faut une expérience personnelle de la mort, de la résurrection de Jésus, cette période où le Saint-Esprit nous enseigne, aussi comme Jésus a enseigné ses disciples, et aussi de recevoir le Saint-Esprit comme les disciples ont reçu. Quand il y a eu ses premières conversions à Samarie, suite à l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus, il y a eu de nombreuses guérisons, des délivrances de personnes habitées de démons, des personnes opprimées, et quand un grand nombre de gens ont cru ou ont été baptisés, la Bible nous dit que les apôtres sont venus exprès de Jérusalem et ils ont prié pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et dans ce témoignage, Pierre et Jean posèrent leurs mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Et Samuel, j'ai reçu le Saint-Esprit, enfin, ça va vraiment quoi. C'est quand même au moment où je l'ai reçu. Je me rappelle bien à telle date, c'était le 6 mai 1985. Et puis aujourd'hui, et ce matin, est-ce que tu l'as reçu? Qu'est-ce qui se passe quand nous recevons le Saint-Esprit? D'abord, il se passe quelque chose en profondeur dans notre vie. Et ça se voit à l'extérieur. C'est pas possible autrement. Mais ce que j'aimerais souligner ici ce matin, c'est que le Saint-Esprit nous libère de nos limites toutes humaines. C'est ce que Jésus a exprimé à ses disciples avec ces trois absolus. Il dit, j'ai reçu tout pouvoir, pleine autorité, dans le ciel et sur la terre. Donc c'est au-delà de nos capacités propres. Il dit, allez par tout le monde. Donc il n'y a plus de frontières, plus de limites dans l'espace. Il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il n'y a plus de limites dans le temps. C'est donc pas limité à celui des apôtres. Alors, les dons du Saint-Esprit, toutes les manifestations du Saint-Esprit participent de cette réalité, de cette dimension que Dieu veut développer dans nos vies. Je dis développer parce qu'il ne s'agit pas de seulement d'avoir parlé une seule fois en langue il y a 4 ou 5 ans, et que cela puisse grandir, puisse s'enrichir, se développer, s'approfondir, tout comme notre relation avec le Seigneur est appelée à se développer. Recevez le Saint-Esprit. C'est aussi, et c'est le sens du mot utilisé par Jésus, prendre avec la main. Saisir. Saisir une personne ou une chose pour l'emmener. Sinon, je n'irai pas sans toi. Je te reçois, Saint-Esprit. Ok, je veux bien aller là où tu me vois, mais je ne veux pas y aller tout seul. Je te prends avec moi. J'ai besoin de toi partout où je vais. C'est prendre aussi ce qui est à soi, s'approprier C'est un don, un cadeau de Dieu. Dieu se donne lui-même à nous. Le Saint-Esprit vient se donner lui-même à nous. C'est aussi le mot utilisé par recevoir le Saint-Esprit, c'est un mot autrement utilisé par s'associer à un compagnon, s'associer à un serviteur. Il y a une collaboration. Et désire vraiment collaborer avec toi, travailler avec toi. C'est un mot utilisé aussi pour, et c'est le cas en l'occurrence aussi, recevoir une personne, lui permettre une rencontre. Recevoir le Saint-Esprit, c'est accepter de le laisser faire ce qu'il désire dans nos vies et au travers de nos vies. C'est plus que simplement une expérience charismatique ou pentecôtiste. C'est un style de vie au quotidien. Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu désires. Fais en moi et au travers de moi ce que tu veux. Sans cela, il n'y a pas de vie de l'esprit. Il n'y en a pas. On peut parler en langue. Voilà. On peut lire la Bible, on peut faire toutes sortes de choses. Vous savez, moi, je me rappelle très bien d'un jour où je dis, Seigneur, cette journée vers toi. J'avais congé, je me suis mis à genoux, pieds de mon lit, puis je dis, Seigneur, je te loue, je te bénis cette journée-là à toi, me voici pour te servir, Seigneur. Et Seigneur, j'ai envie d'aller vous utiliser. Alors, j'ai pris ma Bible, je dis, Seigneur, voilà, conduis-moi. Et à un moment précis, j'entends, Seigneur, dire, tu vas voir telle personne. C'était un jeune qui n'habitait pas très loin de chez moi, je ne connaissais pas du tout, j'avais juste croisé une ou deux fois dans la rue. Seigneur me dit, tu vas le voir, lui. Et Seigneur, je te loue, je te bénis, parce que je vais être à toi, je vais te servir. Et hop, je pars et je lisais avec ma Bible sous le bras, et je commence à faire des contacts dans la rue. Je tombe, première personne, un témoin de Jéhovah, il m'a tenu la jambe pendant une heure, j'étais épuisé. Je suis rentré à la maison, je dis, Seigneur, je suis fatigué, mais merci Seigneur, parce que j'ai pu évangéliser ce témoin de Jéhovah. Et d'un seul coup, j'entends Seigneur me dit, va voir ce jeune homme qui habite pas loin de chez toi. Seigneur, je te bénis, voilà, je vais prendre un temps de prière maintenant. Va voir ce jeune homme. On peut faire toutes sortes de bonnes choses, spirituelles, justes, hein, à nos yeux, qui sont correctes parce qu'elles correspondent à la révélation générale de la parole de Dieu. Et puis ne pas obéir à l'injonction du Saint-Esprit. Ou une directive du Saint-Esprit. Donc il a insisté, j'ai accepté, j'ai dit, non, ok, d'accord, tu fais ce que tu veux. Ben, mais je vous avoue, hein, je suis parti reculons. Hein. Et j'arrive dans le quartier, j'y suis à toi, je sais même pas où il habite ce jeune, c'est sûrement un de ses immeubles, mais je sais pas où, et puis. Si elle me dit, bah, demande. Alors, je vois quelqu'un, j'ai voilà, sans trop conviction, je dis, pour qu'elle ne sache pas. Je dis, vous savez où il habite ce jeune? Puis je dis, que, oui, il habite cet immeuble au premier étage. Puis j'arrive devant la porte, je dis, Seigneur, mais je vais faire quoi? Puis je dis, bah, Seigneur, tu te débrouilles, je sonne. Et puis, c'est le jeune qui ouvre la porte. On ne se connaît pas, hein? Et je dis, écoute, salut, je viens de parler de Jésus. Je lui dis, va me claquer la porte. Et il me dit, bah, entre. Je dis, oh. En fait, il me fait entrer au salon. Puis il me dit, voilà, c'est Dieu qui t'envoie. Je dis, ah bon. Et puis, je lui dis, pourquoi tu dis ça? Il me dit, voilà, je veux devenir curé. Je dis, waouh, formidable. Il me dit, je veux devenir curé, mais j'ai conscience que je ne connais pas Dieu et j'ai demandé à Jésus de se révéler à moi hier soir. J'ai dit, bah, écoute, alors, j'ai peur de Nicodème, voilà, t'es en bonne compagnie avec Nicodème, il a aussi besoin de mettre de nouveau, t'as besoin de nouveau, à genoux, maintenant, tu vas dire, t'as vu à Jésus, ça a duré quoi, un quart d'heure, c'est quand même extraordinaire, il a mis son cœur à Jésus, il était rempli d'une joie extraordinaire, Jésus s'est révélé dans sa vie, et puis, quelques jours après, baptisé dans Saint-Esprit, rempli de l'Esprit, on me rappelle, il n'y avait plus à s'arrêter de parler en langue, il titubait, ivre du Saint-Esprit, on était à la gare, on prenait le train, il me disait, c'est toujours comme ça, j'y vois pas toujours, mais souvent. Quelques jours après, il me dit, écoute, Sam, c'est mon père, apprécie sa parole. Et puis aujourd'hui, il est pasteur à Bourg-en-Bresse. Laisse faire le Seigneur. Tu te fatigues pour tellement de choses, pour ta propre vie, pour ton service. Saint-Esprit veut te conduire. Reçois le Saint-Esprit. Tu verras, ce sera tellement différent. Tellement, tellement différent. Ce ne sera pas toujours facile. Hein? La vie de Jésus n'a pas toujours été aisée. Ce ne sera pas toujours facile. Il y aura des combats, il y aura des luttes, il y aura des temps d'épreuve. Mais tu verras que ce serait tellement, tellement différent. Tu pourrais dire au Seigneur, écoute Seigneur, voilà, tu vois la difficulté qu'on rencontre maintenant. Mais je te bénis parce que ce n'est pas mon travail, c'est le tien. Ce n'est pas mon œuvre, c'est la tienne. Ce n'est pas ma vie, c'est la tienne. Ce ne sont pas mes finances, c'est les tiennes. Hein? C'est relax, non? Seigneur Jésus, je te prie pour mes bien-aimés. Et tu vois les craintes qu'il y a dans certains cœurs. Tu vois ces réticences, ces résistances. Et pourtant, ils t'aiment. Et pourtant, ils savent qui tu es. Et je te prie maintenant, Seigneur, de toucher leur cœur. Et que cette résistance, cette crainte, que tout ce qui tient les empêche de te faire pleine confiance, tombe maintenant. Cher Saint-Esprit, merci d'exercer ton ministère dans la vie de mes bien-aimés. Merci parce que tu es là et tu veux prendre le relais dans leur vie. Et toi qui es là ce matin, qui écoute ces paroles, je t'invite à faire cette démarche, à dire au Seigneur, Seigneur, je remets tout ça dans tes mains. Tout ce qui me préoccupe, tout ce qui me pèse, tout ce que j'essaie de gérer par moi-même, tout ce qui me fatigue, tout ce qui m'épuise, je veux te le remettre, Seigneur, j'en peux plus. Et j'accepte de me laisser conduire par toi. J'accepte que tu prennes le relais. J'accepte que tu prennes toi-même la direction des opérations. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais j'accepte. Dis-le au Seigneur. Il t'entend dans ton cœur, il te voit et il va agir. Reçois le Saint-Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit, je te reçois et j'ai tellement encore à apprendre de toi. Aide-moi, viens à mon aide, secours-moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je me réjouis de ce que vous allez vivre. C'est intéressant, hein? Je dis Seigneur, mais ce matin je vais apporter cette parole. Dites, t'inquiète pas, c'est moi qui fais le travail. Donc, je me réjouis de ce qu'il va accomplir dans votre vie en réponse à votre prière maintenant. Et voilà, ça va changer bien des choses. Que Dieu vous bénisse.